بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue l'explication. Aujourd'hui c'est le cours 101 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on parlait au dernier cours, on expliquait certaines choses à propos du khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et on mentionnait des choses par rapport à sa force et à son jugement et à ses opinions qui étaient en accord avec le Coran et ainsi de suite. Maintenant, on va parler d'un autre point ici. Le cheikh il dit: وقوله حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية. Donc, on continue encore à parler de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Cheikh al-Fawzan il dit: يعني أن عمر يعني حرق كتب الأعاجم لأن في القرآن غنى عنها وهذا هو الواجب. أن لا تروج الكتب التي فيها ضلال وانحراف والكتب السماوية المنسوخة وأن تشاع بين عامة المسلمين ولا يقال هذا للاطلاع كالتوراة والإنجيل ولا يقال في هذا إن المأموم قد ترجم كتب اليونان والرومان. فالحقيقة أن هذا من معايب المأمون غفر الله له، حيث أنه ترجم الكتب الرومية وأدخلها على المسلمين، حتى قال الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه، وما حصل من محنة القول بخلق القرآن إنما هو من جراء تقريب المعتزلة وترجمة الكتب الرومية واليونانية وما فيها من شر وأفكار منحرفة. أضف إلى ذلك البطانة التي اتخذها المأمون من المعتزلة الذين أشاروا عليه بهذه المشورة الخبيثة، ولا يزال المسلمون يعانون من تصرفات المأمون. Donc le cheikh il explique que il a été même rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a fait brûler les livres des mushrikines et des kuffars. C'est-à-dire qu'il a fait brûler les livres des kuffars parce que le Coran, dans le Coran, il y a ce qui nous suffit. Et c'est l'obligation donc à ce sujet-là de ne pas propager des livres dans lesquels il y a de l'égarement et des déviations et des falsifications, et des livres célestes qui ont été abrogés, et de les diffuser parmi les musulmans. On ne doit pas laisser ces choses-là se faire. Et le cheikh il dit qu'on ne doit pas dire ça, c'est juste pour voir qu'est-ce qui est dans la Torah et dans l'Injil. Le cheikh il dit on ne doit pas dire ça, et on ne doit pas dire non plus que Al-Ma'moun, qui était un des khulafa de Bani Al-Abbasiyya, un des khulafa de la dynastie des Abbasiyya, et c'est un des khulafa parmi les khulafa qui ont été influencés par les Mu'tazila et par les philosophes. Et il avait ordonné que les livres grecs et les livres roumains soient traduits en arabe. Et il dit, on ne doit pas se baser sur ce qu'il a fait pour dire que ça c'était bien, puisqu'en réalité ce qu'il a fait, ça fait partie de ses défauts, de choses mauvaises qu'il a fait. Al-Ma'moun, que Allah lui pardonne. Lorsqu'il a ordonné de faire traduire les livres de Rome et des Grecs, donc il a fait rentrer ça chez les musulmans. Et l'imam Ahmad, il a même dit à ce sujet-là, je ne pense pas que Allah va être indifférent envers les actes de Al-Ma'moun, parce qu'il a innové dans l'islam ce qui n'en fait pas partie, et il a été la cause de l'épreuve de l'inquisition, ceux qui ont imposé aux musulmans et aux ulama de dire que le Coran est créé. Donc ça c'était une des fitanes qui a été causée justement à cause de ça. Il dit ça, ça s'est produit uniquement à cause du fait que Al-Ma'mun avait rapproché de lui les Mu'tazila, les gens de la secte des Mu'tazila, et il s'était entouré d'eux. Et qu'il a fait traduire les livres romains et les livres grecs, dans lesquels il y avait toutes sortes de choses qui étaient mauvaises et des idéologies déviées. Hein, il faut savoir que dans les livres des Grecs, souvent les gens, tu vois les koufars qui font l'éloge de la civilisation arabe, disent « Ah, c'est les Arabes qui nous ont amené les livres des Grecs. Hein, en Espagne, on a redécouvert l'héritage des philosophes et toutes ces choses-là. » La plupart de qu'est-ce qu'il y a dans ces livres de philosophie-là, c'est de l'égarement. Et les ulama, ils ont distingué en trois choses sur lesquelles les philosophes ont écrit. Ils ont écrit les philosophes sur, ils disent en arabe, al-tabi'iyat. Ils ont écrit sur al-riyadiyat. Et ils ont écrit sur al-ilahiyat. C'est les trois choses sur les. Ils ont divisé les sujets en trois catégories. Al-tabi'iyat, ou bien al-tabi'iyat, c'est-à-dire les choses de la nature. Ils ont décrit des choses de la nature. Ils ont parlé des mathématiques. Et ils ont parlé des choses qui ont rapport avec la métaphysique et avec les choses de la religion ou de la divinité. Et quand ils parlent des mathématiques, ils ont dit dans les mathématiques, ils ont parlé des choses dans les mathématiques. La plupart des choses qu'ils ont dit là-dedans, il y a du bien. Et c'est des choses qui sont exactes, des mathématiques. Quand ils ont parlé des choses de la nature, là, tu vois qu'il y a beaucoup de mélanges et beaucoup de choses. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Mais quand ils ont parlé des ilahiyat, des choses qui ont rapport avec la divinité, avec la religion ou bien la foi, là, il dit c'est rempli de batil. Hein? Et donc, c'est pour ça, il y en a que dans les paroles des philosophes, quand ils ont commencé à traduire ça, ceux qui ont voulu essayer de se baser là-dessus pour essayer d'interpréter le Coran et interpréter la Sunna, eh bien, ils ont ouvert la porte à beaucoup d'égarements pour les musulmans. Et on est encore, jusqu'à aujourd'hui, en train de subir les effets néfastes de, justement, de ces influences-là aujourd'hui. Et encore des sectes comme les Asha'ira, les Maturidiyya, qui sont justement influencés et inspirés par yani cette bid'a-là qui est partie ou qui est commencée à l'époque de Al-Ma'mun. D'accord? Donc, ça c'est très important de faire attention dans ces choses-là et de comprendre le danger qu'il y avait là-dedans. Ensuite, il dit le cheikh que les rapprochements qu'il a fait également à Al-Ma'mun en voulant se donner un entourage, en rapprochant les gens de la secte des Mu'tazila comme ses conseillers et ses rapprochés, ça a fait donc que yani, ils les ont encouragés, ils l'ont encouragé à justement à faire traduire ces livres-là et à justement yani, propager ces idéologies-là. Et c'est arrivé au point où même ils ont même imposé ça aux ulama. C'est-à-dire que ils ont imposé la parole de dire que le Coran est créé à tous les ulama dans l'état dans le pays, dans toute la région. Et si quelqu'un était juge ou quelqu'un était imam ou quelqu'un était professeur ou peu importe, qu'il avait un poste yani, officiel ou non officiel, s'il enseignait l'islam ou s'il était dans yani, l'enseignement ou dans l'ilm ou dans quoi que ce soit, depuis qu'il avait une influence, il était tout de suite ordonné de dire que le Coran est créé. Et s'il refusait, il était torturé jusqu'à ce qu'il accepte de le dire. Et s'il refusait, il le tuait carrément. Et s'il refusait, il également, des fois, il les enlevait de leur poste. S'il était juge, il le retirait de sa fonction. S'il était imam, il le retirait des postes d'influence. En tout cas, ils ont tout fait pour essayer de propager l'idée que le Coran est créé et pour faire taire les gens et les ulama de Ahl al-Sunnah qui défendaient la position que le Coran c'est la parole d'Allah et que sa parole n'est pas créée. Tout ça, c'est les fruits et les résultats de qu'est-ce qui s'est passé avec Al-Ma'moun. Ensuite, le cheikh, il parle maintenant de Sabir ibn Asal. Il dit « وَقَوْلُهُ حَيْثُ فَعَلَ بِصَبِيرِ ابْنَ عَسَلَ التَّمِيمِ مَا فَعَلَ وَصَبِيرِ هَذَا كَانَ كَثِيرُ التَّسَاؤُلَاتُ وَالتَّشْكِيكَاتُ فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَكَانَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْجُهَّالِ فتنبه له عمر رضي الله عنه فاستدعاه ثم ضربه على رأسه بالعذق حتى أوجعه وأدماه ثم نفاه ثم إن الله تاب عليه فاستفاد من هذا التأديب وأثنى على عمر رضي الله عنه ودعا له. Donc il dit également, on a vu l'exemple du traitement de Omar ibn al-Khattab, comment il a, comment il s'est occupé du problème de Sabir ibn Asal. Et Sabir ibn Asal, c'était un homme qui, il se posait toujours plein de questions, puis il allait voir les gens, puis il leur faisait du tashwish comme ça, il les dérangeait comme ça, en leur posant plein de questions sur les versets et sur les hadiths. Et il commençait à leur mettre des doutes sur les versets et sur les hadiths. Il commençait à avoir un groupe de gens même qui se réunissaient autour de lui. Alors Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a constaté que Sabir ibn Asal, il agissait de cette manière. Alors il l'a fait venir. Et il l'a fait venir et il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai rien, il y a Amir al-Mu'minin, j'ai rien. Il a dit, pourquoi tu poses plein de questions? Il a dit, man anta? Il a dit, ana Abdullah Sabir. Il a dit, wa ana Abdullah Omar ibn al-Khattab. Et il a pris des feuilles de palmier séchées, et puis il a commencé à le frapper avec ça, sur sa tête. Jusqu'à ce qu'il dise, ça y est, Omar, tu peux cesser de me frapper. Le shaitan, le djinn que j'avais dans ma tête, il est parti, ça y est. Je vais arrêter, je ne vais plus poser de questions, je te promets. Et Omar ibn al-Khattab, il l'a fait exiler dans une autre région, dans une autre ville, pour qu'il arrête. Et il a interdit à quiconque de lui parler, de lui adresser la parole. Finalement, il a appris l'islam, il s'est assis avec les ulama, il a appris l'islam, il est devenu un des ulama. Donc c'est pour dire, il avait besoin juste d'une bonne éducation, si on veut, ou d'une bonne correction pour le remettre droite, parce qu'il perdait son temps avec des choses qui ne sont pas fondamentales, qui ne sont pas suffisamment bénéfiques pour lui. Donc Omar ibn al-Khattab, en agissant comme ça avec lui, il lui a fait comprendre que, écoute, là la voie dans laquelle tu t'en vas, là, tu t'en vas pas dans le bon chemin. Je vais t'apprendre une leçon pour que tu saches que à l'avenir, si tu veux apprendre ta religion, tu dois l'apprendre correctement, pas n'importe quelle façon. Et donc il lui a fait ça, et on dit qu'il est devenu par la suite un des savants. Yani, subhanallah. Parce qu'il posait des questions sur des choses qui sont pas fondamentales, qui sont pas importantes. Et lui, il dérangeait les gens, il occupait les gens par ces questions-là. Et c'était pas encore, on peut pas dire que c'était pas des innovations qu'il faisait, mais c'était un chemin vers l'innovation. Et en agissant ainsi, donc, il a eu sa leçon. Même que on dit que plus tard, quand les Khawarij sont sortis à l'époque de Ali radiallahu anhu, ils sont venus vers lui pour lui demander de sortir avec eux. Et il a répondu, il a dit non. Le serviteur pieux m'a bien corrigé, m'a bien éduqué. Je ne veux pas sortir avec vous. Il a compris que c'était déjà des garments. Donc tout ça c'est pour dire, yani, le traitement de Sabir ibn Asal, c'est une des choses qui est arrivée que les ulama ils mentionnent souvent par rapport à son attitude envers les gens qui amènent des doutes et des ambiguïtés ou qui veulent toujours disputer sur des questions de religion. Il dit وَقَوْلُهُ سَيَأْتِ عِنْدَ ذِكْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ فِي خُصُوصِ أَعْيَادِ الْكُفَّارِ يعني سَيَمُرُّ لَاحِقًا نهي عمر عن التشبه بالكفار في أعيادهم وزيهم ولباسهم وعاداتهم ما يدل على قوة شكيمته وأنه لا ينقاد للمغرضين أو لأصحاب الأهواء أو المخادعين وإنما يثبت على الحق ويأخذ حذره من هذه الأمور ولا يحسن الظن بكل أحد وإنما يحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وعلماء الصحابة وقوله ثم ما كان عمر رضي الله عنه قد قرره من السنن والأحكام فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر يعني أن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة بعد عمر من بعد عمر رضي الله عنه مشى على خطة عمر رضي الله عنه. Donc il explique que par la suite il va en parler encore de Sabir ibn Asal au sujet de l'interdiction de célébrer les fêtes des kuffars. Et il va mentionner quelque chose à ce sujet-là, parce que Omar ibn al-Khattab avait clairement mentionné l'interdiction de ressembler aux Koufa dans leurs fêtes et dans leurs habits, dans leur façon d'agir, dans leurs adorations, ce qui montre sa fermeté et sa force, et le fait qu'il ne se laissait pas, il ne se laissait pas tirer par les tentations ou bien par les gens qui ont des passions ou qui veulent essayer de tromper les gens. Il était ferme sur la vérité et il faisait attention à ces choses-là. Il était sur ses gardes et il ne faisait pas confiance à n'importe qui. Il ne pensait pas du bien de tout le monde, mais il pensait du bien en particulier des compagnons du messager d'Allah. Parmi les muhajirin et les ansar et les ulama parmi les sahaba. Puis après lui, Uthman ibn Affan, il a approuvé de ce que Omar avait établi comme principe et comme règle de la religion. Donc tout ça c'est pour confirmer donc que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il était sur cette voie-là, la même voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était ferme sur cette voie et qu'il interdisait clairement aux musulmans d'imiter les kuffars et les mushrikin. Dit wa rawa Sa'id Sa'id fi sunanihi hadathana Hushaym an Khalid al-Hadha an Abd al-Rahman ibn Sa'id ibn Wahb an abihi qal kharaja Ali radiyallahu anhu فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم رواه ابن مبارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. Et il dit وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ إِبْنِ عُمَرْ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهَانِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَرَوَى أَبُو دَاوُودَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ وَعِسْلٌ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده ولكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا وأنه كان يصلي سادلا فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث ثم لما بلغه رجعه أو لعله نسي الحديث والمسألة مشهورة وهي عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح في روايته والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمل المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص توفيقا بين الآثار في ذلك وحملا للنهي عن لباسهم المعتاد. Okay, donc ici il y a des narrations que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionnées au sujet de As-Sadl. Et As-Sadl, ici, on parle de As-Sadl dans les vêtements. On parle de As-Sadl dans les vêtements. Et c'est de porter ces vêtements d'une manière qui est mentionnée dans les hadiths comme étant interdite. Il y a d'autres narrations qui mentionnent que certains avaient mentionné que c'était permis et d'autres qui mentionnaient que c'était interdit. Et le fait que c'est quelque chose d'interdit, c'est connu. Même les ulama des madhahib, ils l'ont mentionné comme étant interdit. Ben, on va voir maintenant l'explication, parce que as-sadl, c'est une façon de porter ses vêtements. Et on va voir la description que le cheikh en a mentionné à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il a dit, cheikh Al-Fawzan, là-dessus, pour clarifier un peu plus la signification, puisque as-sadl, ça reste quand même quelque chose. Ici, j'ai lu les explications, j'ai eu du mal à voir exactement de quoi il s'agissait dans l'explication. Même avec l'explication, j'ai du mal à visualiser à quoi ça ressemble, as-sadl, dans les vêtements. Mais disons que c'est un peu plus clair quand on lit le hadith, mais on va voir que as-sadl, ça peut être plusieurs choses, en fait. Ça peut être plusieurs choses. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Qawluhu, kharaja aliyun, radiyallahu anhu, fara'a qawman qad sadalu. Hadhan al-hadithan, yanhayan anis-sadl. Was-sadlu, kama dhakara ahlul ilm, an yalbisa ar-rajulu thawban wahidan, wala yaruddu tarafayhi, ay yada'u thawb ala katifihi, ولا يرد أحد طرفه على كتفه الآخر وقد نهي عن ذلك مظنة انكشاف العورة ولأن فيه تشبها باليهود حيث أنه وقد تكاثرت النصوص في النهي عن السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه ثوب غيره، أما إذا كان تحته ثوب ساتر فلا مانع من السدل. وقوله لكن روية بون ici il dit le cheikh que les deux hadiths qu'on a lus au début, c'est deux hadiths qui interdisent as-sadl. Et les ulama ont mentionné que as-sadl, c'est quoi? C'est que quelqu'un porte un vêtement unique, un seul vêtement, mais qu'il ne ramène pas un de ses extrémités sur l'autre. Hein? Donc il dit par exemple, ici il explique, il dit que c'est qu'il mette un vêtement sur son épaule, mais qu'il ne ramène pas son autre extrémité sur son autre épaule. Dans le sens que, yani, la raison pour laquelle il a interdit cela, c'est parce que c'est quelque chose qui fait que la personne risque de montrer ses parties. Ça risque de ne pas bien couvrir ses parties. Et j'ai lu d'autres explications que ça, à propos de As-Sadl. J'ai lu d'autres explications que ça aussi. Mais une des raisons aussi pourquoi c'est interdit, c'est aussi parce que c'est une des façons dont les Juifs portaient leurs vêtements. Hein, c'est une ressemblance aux Juifs. Et il y a eu beaucoup de textes qui ont mentionné l'interdiction de faire as-sadl dans la salat si la personne ne portait pas un autre vêtement en dessous. Mais s'il y a un autre vêtement en dessous qui couvre, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit. Ensuite il dit ولكن وقوله ولكن روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بأسا بالسدل وقد يكون الجواب من وجهين الأول لا بأس بالسدل إذا كان تحته ثوب يستره أو لعل الحديث لم يبلغه ثم لما بلغه الحديث نهى عنه وعطاء هو عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة ومن التابعين المشهورين أي نعم وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو الفقيه المشهور. Donc il dit qu'il a été rapporté également selon Atta radiyallahu anhu de plusieurs façons qui sont de plusieurs narrations qui sont bonnes que il considérait qu'il n'y avait pas de problème avec as-sadl. Et le cheikh il a expliqué que ça c'est on peut l'expliquer ou on peut répondre à ça de deux façons. Premièrement, s'il dit qu'il n'y a pas de problème avec le fait de faire as-sadl, c'est parce que il veut dire que la personne elle faisait le sadl alors qu'elle avait un vêtement en dessous qui la couvrait comme il faut. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de faire un sadl, puisqu'il n'y a pas de risque que les parties soient découvertes. Et une autre explication, ce serait que le hadith de l'interdiction ne lui était pas encore parvenu, et que lorsqu'il a appris le hadith avec son interdiction, eh bien il est revenu donc sur cette position là. Et Atta qui est mentionné ici, c'est son nom, c'est Atta ibn Abi Rabah, et c'est un des imams parmi les imams de l'islam et les imams de Mecca à son époque, et il était un des tabi'in parmi les célèbres tabi'in, et c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et c'était un parmi les savants qui est célèbre. Il dit ensuite wa al-mas'ala qawluhu wa al-mas'alatu mashhura wa hiya 'amalu ar-rawi bi khilafi riwayatihi hal yaqdah yani hatta law annahu 'alima ar-riwaya law annahu 'alima ar-riwayat al-ukhra allati tamna'u fa khalafaha fal hujjatu fi ma rawa la فيما رأى فيما روى لا فيما رأى وهذه قاعدة عند أهل العلم أن الراوي إذا خالف ما روى فالحجة فيما روى la fima ra'a. Subhanallah. Donc le cheikh dit ça, c'est une question connue, que lorsqu'un rapporteur, une des personnes parmi les rapporteurs d'un hadith, il rapporte un hadith, puis que lui il a une parole ou une position qui contredit ce qui est rapporté dans le hadith qu'il a rapporté, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? Eh bien, il dit que qu'est-ce qui est important, même s'il a contredit ce qu'il a rapporté, la preuve est dans ce qu'il a rapporté, pas dans ce qu'il a eu comme opinion. D'accord? Donc, la preuve qu'on doit suivre, c'est dans ce qu'il a rapporté du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de ce qu'il a eu lui comme opinion personnelle. Et ça, c'est une règle chez les hommes de science, que le rapporteur d'un hadith, s'il contredit ce qu'il a rapporté, la preuve est dans ce qu'il a rapporté, non pas dans ce qu'il a dit, non pas dans son opinion personnelle à lui. Donc le cheikh il dit فالحاصل أن مخالفته لا تقدح فيما روى لما تحتمله المخالفة من وجوه فإما أنه لم يبلغه الحديث المخالف وإما أنه بلغه ولم يصح عنده أو أنه فسره بمعنى آخر يحتمله اجتهادا منه. Donc il dit que qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de cette question, c'est que le rapporteur qui rapporte un hadith et qui contredit ce qu'il a rapporté, le fait qu'il contredit ce qu'il a rapporté, ça ne vient pas annuler ou rendre vain, détruire ce qu'il a rapporté, puisqu'il y a des possibilités, des choses qui peuvent expliquer la raison pour laquelle il a contredit ce qu'il a rapporté, de différents points de vue. Soit que le hadith qui vient en contradiction avec ce qu'il a dit, ou ce qu'il a eu comme opinion, ne lui était pas parvenu. Ou bien que le hadith en question lui est parvenu, mais qu'il ne le considérait pas comme étant authentique. Ou bien qu'il l'a compris, il l'a interprété d'une autre signification, hein, qui était acceptable selon les principes et les règles de l'ijtihad. Donc, il y a une explication pour laquelle il n'a pas adopté ou il n'a pas eu comme opinion ce qu'il a rapporté dans le hadith. Il dit وقوله عن أبي عبيدة أن أباه كره السدل في الصلاة. يعني مفاد القول أن النهي يكون إذا لم يكن تحته قميص، أما إذا كان تحته قميص يستره فإنه لا بأس في أن يرخي طرفي الرداء، ولهذا قالوا يكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، فهذا هو تخريج هذه المسألة، وقد مر كراهية التلثم في الصلاة من غير حاجة لأن هذا من فعل اليهود والتشبه بهم إلا إذا كان لحاجة ثم اختلف. Donc on va traduire ça, puis après on va continuer. Le cheikh il dit que donc ensuite Abu Ubaida il a dit, cheikh l'islam il continue, il dit et Abu Ubaida a mentionné que son père détestait As-sadl dans la salat. Et il dit que c'était détestable s'il n'y avait pas un vêtement en dessous. Tandis que s'il y avait un vêtement en dessous et que ça couvrait bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de faire as-sadl. Et c'est pour ça qu'il a dit wa yukrahu fi as-salat as-sadl wa ijtimal as-samma. Donc c'est pour ça qu'il a dit que ça c'est détestable dans la salat. Et il dit que on a déjà mentionné aussi le fait qu'il est détestable de se couvrir le visage pendant la prière sans qu'il y ait une raison ou un besoin quelconque. C'est-à-dire par exemple il fait froid, très froid dehors, puis que tu dois prier dehors et qu'il fait très froid. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Hein? On sait que de couvrir le visage dans la salat, c'est pas permis. Sauf que s'il fait vraiment froid, puis que tu as peur de geler, donc il n'y a pas de mal dans ce cas-là de couvrir ton visage avec quelque chose. Hein? Et la raison pour laquelle c'était interdit, c'est parce qu'il y a une ressemblance avec les juifs dans le fait de faire ça. Naam. Après, le cheikh, il dit, cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, il dit, ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد وقال أبو بكر عبد العزيز إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق ومنهم من لم يكرأ السدل وهو قول مالك وغيره. Donc ici le cheikh il dit, on a divergé, les ulama ils ont divergé à propos de as-sadl. Ça c'est cheikh al-islam, il dit il y a divergence au sujet de as-sadl par rapport à la salat. Est-ce que ça rend la salat nulle ou non? Est-ce que ça rend la salat nulle ou non? Et Ibn Abi Moussa il a dit, si il prie avec le sadl, c'est-à-dire il porte ses vêtements d'une manière qui risquerait de faire paraître sa aura, il y a deux positions ou il y a deux paroles au sujet du fait que la personne, sa prière soit valable ou non, c'est-à-dire est-ce qu'il doit la refaire ou non. Et il dit la position la plus apparente, c'est qu'il n'a pas à la refaire. Ensuite il dit, et Abu Bakr ibn Abdul Aziz a dit, toutefois si ses parties intimes sont montrées ou bien sont pas couvertes, dans ce cas-là, s'il n'a pas montré ses parties intimes, dans ce cas-là il n'a pas à refaire sa prière selon l'accord de tous les ulama. Mais parmi les ulama, il y en a qui ont considéré ça, qui n'ont pas considéré cela comme étant détestable du tout, comme Malik et d'autres. Il dit, le cheikh dit, والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر وهذا هو المنصوص عن أحمد وعلله بأنه فعل اليهود وقال حنبل وهو أبو عبد الله والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه وهو لبس اليهود وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة وقال صالح ابن أحمد سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. Après il dit, وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل على قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب ويجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح ولكن ليس هو السدل. Donc ici il explique que il donne la définition de qu'est-ce que c'est as-sadl. Comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il mette son vêtement, qu'il lance son vêtement sur un côté, sur un de ses épaules, sans ramener l'autre côté de son vêtement sur son autre épaule. Donc, j'aimerais bien savoir de quoi exactement, comment c'est, de quelle façon c'est comme si physiquement, là, comment on le fait, parce que je ne vois pas l'exemple de qu'est-ce qu'il est en train de décrire en parlant de As-Sadl ici. Je sais que c'est quelque chose qui a rapport avec le vêtement, puis que c'est quelque chose qui est fait que la aura puisse paraître. Sauf que visuellement, là, je le vois pas. Yann. Donc, des fois, c'est difficile comme ça de pouvoir expliquer quelque chose si on ne l'a pas vraiment bien compris physiquement, concrètement. Parce que c'est pas quelque chose que les gens font aujourd'hui, de toute façon, As-Sadl. C'est pour ça que c'est difficile à visualiser ou à comprendre. Et j'ai écouté plusieurs paroles des ulama à ce sujet-là pour essayer d'avoir un exemple ou voir quelque chose qui pourrait me faciliter pour comprendre qu'est-ce que ça pourrait être ou comment, à quoi ça pouvait ressembler. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé, donc... C'est-à-dire, j'en ai trouvé des explications écrites et des explications verbales, mais malgré les explications, j'arrive pas à le visualiser. Hein. C'est-à-dire, c'est pas concrètement, c'est pas clair de quoi ça peut avoir l'air. Hein. Donc, c'est ça le problème. Mais bon. C'est la plupart des musulmans d'aujourd'hui, on porte nos vêtements, le qamis qu'on porte, la façon dont on le porte, c'est pas une façon qui ressemble à ce qui est décrit dans la description de As-Sadl. Donc, en principe, il n'y a pas de ce problème-là, Inch'Allah. Mais on va y revenir ici. On va y revenir la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de poser la question à quelqu'un qui pourra me donner un exemple plus concret. Le mieux, ce serait de le voir faire avec le vêtement, là, comme ça, si tu le vois, comme ça, tu le comprends plus facilement. Taïb, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.